Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM, RGB et RCF Limousin.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 42e numéro du quart d'heure corrézien. Je m'appelle Olivier Serac et je vous accompagne au cours du prochain quart d'heure pour vous fournir la seule excuse valable pour expliquer votre retard à votre prochain rendez-vous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au cours de ce quart d'heure, je vous emmène sur l'autoroute A20 à Brive à la rencontre d'agriculteurs à bout de souffle. Depuis jeudi après-midi, une soixantaine de tracteurs bloquent l'autoroute pour défendre leur travail. Un blocage qui a lieu alors qu'il y a un grand bouleversement à la tête de la Chambre d'agriculture. Son président, Tony Cornelissen, a démissionné de son poste. On vous explique pourquoi. Et puis, je vous invite aussi à découvrir ce que sera la prochaine cité de l'accordéon et des patrimoines à Tulle. Elle ouvrira le 6 avril prochain et nous l'avons visitée cette semaine. Enfin, Philippe Videau, le maire d'Objat, est notre invité de cette 42e édition. Un maire d'hiver droite qui a fait le choix de passer à la semaine de 4 jours dans sa collectivité. Nous reviendrons avec lui sur les raisons de cette nouvelle organisation à la fin de cette émission. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Une soixantaine de tracteurs se sont emparés jeudi après-midi de l'A20 à Brive. Des tracteurs stationnés sur les deux voies et des deux côtés de l'autoroute. Une mobilisation exceptionnelle orchestrée par la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs. Une mobilisation même jamais vue en Corrèze parce que la colère est grande.
On travaille 70 heures par semaine, on gagne moins de 9 SMIG. Et on s'endette de beaucoup d'argent pour à la fin il nous reste rien. On brasse des milliers d'argent. Et c'est pas nous qui en profitons. Quand vous achetez des intrants ou que vous vendez des animaux, ou quoi, avec les charges et tout, vous brassez 200-300 000 euros et à la fin, vous sortez même pas un SMIG par mois. Quoi.
Alexandre Bru est éleveur de Limousine à Cublac. Ce qui le met hors de lit depuis des mois, ce sont les importations alimentaires.
Bruxelles est en train de signer les accords avec le Chili pour faire entrer des produits au niveau européen. C'est pas normal. Déjà que nous, on va mal. À un moment donné, mangeons déjà français. On a de quoi subvenir à nos besoins en France, pourquoi on les fait importer ?
D'autant plus que pour lui, ces importations ne sont pas produites avec les mêmes exigences de normes.
Rien que les produits de traitement, les conditions d'élevage, enfin, ça n'a rien à voir. Nous, on n'élève pas dans des feed lots comme en Amérique. Les feed lots, c'est des parcs où vous avez 3 ou 4 000 animaux entassés les uns dans les autres, dehors, sans bâtiment, sans rien. Quoi. Mon exploitation, c'est une exploitation moyenne de la Corrèze. Avec 50 vaches, des animaux bien traités, et enfin, on aime nos animaux.
Son exaspération est d'autant plus grande que...
On parle beaucoup du bien-être animal, mais on parle très peu du bien-être de l'éleveur. C'est notre métier, c'est notre passion, mais on sacrifie notre vie à nous, mais on sacrifie aussi notre vie de famille. C'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie.
Un mode de vie qu'il veut défendre à tout prix.
Je pense qu'on est installé là pour un moment, et s'il faut aller jusqu'à Paris, on ira jusqu'à Paris.
Présent jeudi après-midi aux côtés des agriculteurs, le député Les Républicains, Francis Dubois, assurait son soutien en réclamant plus de clarté justement sur les normes.
Tant qu'il n'y a pas d'application de la loi Egalim, il n'y a pas de traité de libre-échange qui soit signé. Traité de libre-échange signé, tant qu'il n'y a pas de clause miroir. La clause miroir, c'est une taxe à l'importation. Alors ils l'appellent, si ça leur fait plaisir, taxe carbone, mais il faut une taxe aux produits importés. Si on veut que les produits agricoles et les consommateurs ne se replie pas sur ce qui est le moins cher, eh bien il faut une taxe à l'importation.
Pour lui, cette clarté a des enjeux en termes de santé publique.
En Argentine, pratiquement tous les veaux, à 8 jours, sont piqués aux hormones. Donc quand ils arrivent, en matière environnementale, ils sont de plus mauvaise qualité. En matière sanitaire et en matière donc, de santé, ils sont de très mauvaise qualité par rapport aux produits d'excellence français.
Pour la députée Frédérique Meunier, elle aussi affiliée chez les Républicains, si cette mobilisation est aussi importante, c'est parce que le gouvernement n'a pas su entendre la colère monter dans les campagnes.
On a un gouvernement, à mon avis, qui n'a pas assez d'autorité et qui se laisse manipuler ou qui font la sourde oreille quand nous, à l'Assemblée nationale, on leur dit « ça ne va pas », on leur dit « c'est pas appliqué », on leur dit « vos normes ne sont pas justes ». Écoutez-nous, faites attention. Et au bout du bout, ils nous balayent d'un revers de main en nous expliquant que tout va bien, que ils sont à la manœuvre, que la PAC va être versée, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Rien n'est fait. Rien n'est fait.
Ce vendredi, le Premier ministre devait apporter les premières réponses à la mobilisation des agriculteurs. Pas sûr qu'elles puissent éteindre les braises de la colère. Les agriculteurs avaient déjà installé barnums et toilettes de chantier sur les bords de l'autoroute 20, histoire de montrer que le mouvement était prévu pour durer. Et dans ce contexte de colère et de mobilisation, un véritable séisme est en train de se produire à la tête de la Chambre d'agriculture de la Corrèze. À un an du terme de son mandat, Tony Cornelissen, l'emblématique président de la Chambre depuis 12 ans, ancien président aussi de la FDSEA, a démissionné. Une démission parce que l'homme a fait valoir ses droits à la retraite.
Déontologiquement, un président de Chambre d'agriculture se doit de représenter les professionnels et les actifs de sa profession. Aujourd'hui, déontologiquement, c'est quand même difficile pour lui d'être retraité et de prendre la défense de ceux qui sont actifs.
Et la colère exprimée cette semaine par le monde agricole n'étonne absolument pas le désormais ancien président de la Chambre d'agriculture.
Aujourd'hui, quand l'agriculteur n'a le choix que de supporter le prix qu'on lui donne et ne pas discuter et ne pas intégrer les coûts des charges, ne pas intégrer les surcoûts, etc., etc., ça ne peut pas faire autrement que de mal finir. Et aujourd'hui, quand on entend les présidents d'enseignes de grande distribution qui font des leçons de morale, c'est quand même eux aussi qui pressurisent le prix des agriculteurs, et ils le pressurisent pour qu'ils fassent payer moins cher le consommateur, peut-être, mais c'est surtout pour eux, mais c'est surtout aussi en utilisant les produits d'importation qui sont dégueulasses le goût, par les produits chimiques utilisés qui sont interdits chez nous, par les conditions sociales qui sont, déplorables puisque les gens sont payés au lance-pierre, et puis les conditions environnementales qui sont également archi déplorables.
Maintenant, Tony Cornelissen veut concentrer son énergie sur la foncière, un collectif d'agriculteurs afin de développer l'énergie solaire sur les toits d'exploitants agricoles. Près de 10 ans après les premières études, ça y est, la cité de l'accordéon et des patrimoines de Tulle va enfin pouvoir ouvrir ses portes. Rendez-vous le 6 avril afin de pouvoir découvrir les nouveaux contours de l'ancienne Banque de France, en plein cœur du quartier du Trec à Tulle. Un espace 3 en 1 puisque 3 collections des musées de Tulle sont réunies au sein de cette cité de l'accordéon et des patrimoines. Vous trouverez la collection de dentelles et du célèbre point de Tulle, la collection de la manufacture d'armes, mais aussi, bien sûr, les collections dédiées à l'accordéon. Et parmi ces pièces, l'ancienne boutique de Martin Caïla, l'un des chantres de la culture musicale auvergnate à Paris.
Elle était dans nos réserves, dans l'ancien bâtiment, le pôle accordéon. Elle était remontée provisoirement, en attente d'être un jour dans son lieu définitif.
Autant dire que pour Karine Lhomme, directrice de la cité de l'accordéon et des patrimoines, cette ancienne boutique parisienne est
un lieu incontournable de la vie musicale. Elle a fonctionné de 1938 à 2000.
Près de 700 objets sont ici réunis, dont une centaine sont interrogeables via une sorte d'audioguide. L'enjeu est clair, faire que le visiteur soit acteur de sa découverte du lieu et de ses histoires.
Là, on peut enfin découvrir cette richesse, cette collection instrumentale unique qui a été acquise maintenant depuis plus de 30 ans par la ville. On est un musée référence vraiment sur cet instrument. On est la seule collection publique Musée de France dédiée à l'accordéon. En plus, elle a des points forts qui est que vraiment elle propose des instruments qui s'échelonnent, des origines de l'instrument tout début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc on traverse toute l'histoire de cet instrument qui, en 100 ans, a connu une évolution incroyable, passant des salons de la bourgeoisie à l'univers populaire et au bal que l'on connaît. Tout ça, on peut le découvrir avec, bien sûr, les instruments qui sont présentés, mais aussi des images, des photographies, d'archives, qu'on fait revivre à l'intérieur des vitrines grâce à ces projections. Tout ça, on peut aussi l'écouter. Vraiment, j'engage les visiteurs à faire ce parcours sonore parce que l'expérience, elle est complète que quand on a les deux, à la fois les objets et le son.
Et pour que cette expérience soit totale, l'ancienne salle des coffres de la Banque de France propose aux visiteurs de s'emparer des instruments. 2 accordéons, l'un diatonique, l'autre chromatique, sont à la disposition des visiteurs. Et pour mieux vous accompagner, Frédéric Valli, professeur d'accordéon au Conservatoire de Tulle, a enregistré quelques vidéos pour mieux guider les visiteurs.
Le premier rudiment de l'instrument, comment le tenir, jouer quelques notes à la main droite et à la main gauche. Et ce qu'on a voulu à la fin, c'est de jouer ensemble, que l'accordoniste diatonique et l'accordoniste chromatique puissent éventuellement jouer ensemble. Donc on peut très bien faire un duo à la fin. L'idée, c'était d'avoir une position. Donc il y avait une position. Voilà, on est sur une position avec 2 notes, et 2 notes à la main gauche, 2 notes à la main droite, qui fonctionnent ensemble. Voilà. Ces notes-là se se marie aussi bien avec les notes proposées par Rémi en diatonique. Et ce qui fait que, voilà ce que je vous disais, on peut aussi très bien jouer en duo à la fin pour avoir deux harmonies différentes et pouvoir créer une petite mélodie.
Pour l'instant, seul le rez-de-chaussée dédié à l'accordéon a été dévoilé à la presse cette semaine. Mais pour le maire de Tulle, Bernard Combe, cette cité de l'accordéon et des patrimoines est un véritable hommage à l'histoire ouvrière de Tulle et ses cultures.
Ce qui me fait plaisir, c'est de penser à toutes celles et tous ceux qui ont participé par leur esprit manufacturier, par des années de travail dans les manufactures d'accordéon, dans les ateliers de dentelle, dans les ateliers de fabrication de l'accordéon. C'est toutes ces personnes qui ont contribué à ces savoir-faire et qui ont aujourd'hui vont avoir une résonance particulière à nos émotions et à notre mémoire. Donc en fait, vous avez là un concentré d'âmes qui se sont livrées à un long travail au quotidien, parfois dans la difficulté et la souffrance. Et aujourd'hui, on voit le résultat ici pour toutes celles et tous ceux qui vont pouvoir en profiter de manière émouvante, parce que je pense que c'est le mot qu'il faut retenir.
Entre l'achat de l'immeuble et les travaux, l'ensemble du projet a coûté près de 8,5 millions d'euros. La cité de l'accordéon et des patrimoines sera ouverte tous les jours du mercredi au dimanche à partir du 6 avril. Les lundis et mardis étant réservés aux scolaires et aux groupes. Comptez 7 euros plein tarif pour pouvoir la visiter. Philippe Vidot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire d'hiver droite d'Objat, un maire qui a mis en place depuis le 2 janvier dernier la semaine de 4 jours pour vos agents. Tout simplement, pourquoi ?
Cette idée donc est venue après avoir concerté pas mal d'agents, pas mal d'élus aussi. Et aujourd'hui, la fonction publique territoriale est confrontée aux mêmes problématiques que dans le privé. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là et qui peuvent effectivement s'en aller 2 ans après, 3 ans après. Et donc du coup, trouvons une solution à laquelle le mot « être attractif ». Et je pense que de mettre en place une semaine de 4 jours, c'est être attractif pour une collectivité.
Mais c'est rendre aussi attractif les métiers de la fonction territoriale ?
Oui, tout à fait. Quand je dis attractif, c'est effectivement, j'y comprends beaucoup d'ailleurs, les métiers de la fonction publique territoriale. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des valeurs sûres dans les services de la fonction publique territoriale. Mais peut-être qu'aujourd'hui, l'après-Covid a fait que les gens ont pris mais peut-être plus de possibilités d'être dans le bien-être plutôt que le travail. La valeur travail, elle était perdue. Pour moi, elle était perdue. Je pense qu'elle revient, elle reviendra. Peut-être pas pour tout le monde, mais le fait de mettre cet aménagement du temps de travail fera que on devrait être en efficacité meilleure, mais avec une année d'expérimental. Parce qu'il faut que nous puissions avoir un peu de recul dans 3, 4 mois, 5 mois, et voir un petit peu s'il n'y a pas des trous dans la raquette, et comment les gens s'organisent, et comment les services aussi s'organisent.
Concrètement, de passer de 5 à 4 jours par semaine, c'est plutôt quelque chose de gauche, quelque part, on va dire. Ce n'est pas inné chez vous, en fait. Pourquoi passer comme ça ce cap-là ?
Vous savez, gauche, droite, centre, etc., je pense qu'aujourd'hui, c'est des postures politiques. On n'est pas là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est amener du bien-être aux gens pour travailler. Alors, il n'y a pas que des gens de gauche qui pensent ça. Il y a aussi des gens de droite. Et puis après, ce n'est pas la politique qui doit gérer ça. C'est vraiment une entente, une complémentarité dans ce que nous souhaitons, nous les décideurs, avec après les agents qui, eux, amènent aussi une pierre à l'édifice. Donc, je suis convaincu que ce n'est pas un problème de politique.
Concrètement, d'un point de vue économique aussi, est-ce que ça va coûter plus cher ? Est-ce que vous allez devoir embaucher des agents supplémentaires ? Comment ça va se passer ?
Non, ça ne va pas coûter plus cher. Il y a une nouvelle organisation. Vous voyez, par exemple, le samedi matin où on était ouvert, la mairie va être fermée. Donc, on a voulu qu'il y ait le même nombre d'heures destinées pour le public par semaine. Donc, on va ouvrir le mardi et le jeudi. La mairie sera ouverte jusqu'à 18h15, alors qu'avant, c'était fermé à 17h pour remplacer le samedi. Parce que le samedi matin, il y avait des gens qui venaient travailler. Donc, aujourd'hui, on peut s'organiser autrement. On peut demander des choses par Internet. Les choses sont différentes. L'objectif, c'est le bien-être au travail, que ça soit dans le privé ou dans le public. On refera la situation dans quelques temps. On verra. Et même si je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière, ce que je ne souhaite pas, parce que les agents, après, vont avoir des habitudes d'organisation pour la famille, pour le social n'est pas que pour des gens de gauche. Et puis bon, le social fait partie de notre environnement aujourd'hui, de notre ADN. Enfin, les employeurs doivent aussi proposer des choses.
Donc on vous verra maintenant, donc d'ici septembre, en fait, pour faire les bilans de cette expérience. Merci Philippe Vidot.
Oui, merci à vous. Oui, ben, je vous donne rendez-vous en septembre ou avant, quand vous le souhaiterez. Merci à la radio RGB.
Et bonne journée. Voilà, c'est la fin de ce 42e numéro du Quart d'heure corrézien. Le Quart d'heure corrézien, le magazine d'information 100% corrézienne, revient la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le Quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.fr et radiograndbrief.fr.